France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Nancy Keys and Inga Housey.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
3 millions de documents, certains caviardés, d'autres pas, balancés sans aucune prise de recul, des noms dans tous les sens sans qu'on puisse les attacher ou non d'ailleurs. Au scandale de pédocriminalité, la révélation des dossiers Epstein soulève des questions, ouvre aussi une boîte de Pandore à complotisme et on va en parler avec Rudi Reichstadt. En Russie, la guerre, quoi qu'il en coûte, c'est Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est au Québec ce soir avec une série qui débarque en France et qui cartonne au pays du hockey. L'histoire d'un couple de hockeyeurs rivaux sur la glace, amants dans la vie, voilà qui révolutionne le sport le plus conservateur d'Amérique du Nord.
Jeudi dernier, j'étais au Centre Bell, et puis justement la musique de Heated Rivalry jouait, donc c'est 22 000 personnes qui chantaient, dansaient sur la musique de Heated Rivalry. J'aurais été surpris si on m'avait dit ça il y a quelques semaines.
Un reportage à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Australie prison ferme pour un salut nazi. C'est une première en Australie. Et Ilana Moriousef, dans Écrire le Monde, a vu la condamnation pour corruption de l'épouse du président coréen déchu. Ça lui a rappelé une lecture qu'elle partagera avec vous. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va ?
I think it's really time for the country to get onto something else. Really. You know, now that nothing came out about me.
Donald Trump sur CNN hier soir. Il est temps que le pays passe à autre chose, dit-il. Maintenant que rien n'est sorti à mon sujet, à part le fait que c'était un complot contre moi par Epstein et par d'autres, il faut passer à autre chose. Bonsoir Rudi Reichstadt.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste et journaliste, directeur de Conspiracy Watch. Vous travaillez autour du complotisme et ses antennes. Je renvoie au podcast qui s'appelle Complorama chez nos amis de France Info avec Tristan Mendès France. Elle est intéressante cette remarque de Donald Trump parce qu'elle résume peut-être à quel point peut-être ces révélations massives autour du dossier Epstein permettent à la complosphère d'ouvrir plein de portes différentes. Là, ce qu'il nous dit, par exemple, lui qui a fait volte-face à plusieurs reprises, c'est qu'il retourne le soi-disant complot contre l'ouverture des dossiers, en complot contre lui, ourdi par Epstein. Enfin, on a l'impression que ce qu'on a ouvert, c'est de multiples poupées russes, désormais.
Oui, non seulement il instrumentait cette histoire depuis le début, il a lui-même versé dans le complotisme, hein, dès l'annonce de la mort, en tout cas du fait qu'on ait retrouvé mort dans sa cellule, Jeffrey Epstein, en août 2019. Il faut rappeler que cette affaire Epstein, elle commence en juillet 2019 par la démission du ministre du Travail de Donald Trump, qui avait négocié un accord permettant à Epstein, quelques années plus tôt, d'échapper à des charges les plus sévères, les plus lourdes contre lui, s'en sortir avec environ 18 mois de prison. Ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre aussi une fenêtre, qui est celle d'Overton, la fenêtre d'Overton, du complotisme, et je dirais même de l'antisémitisme, parce que sur les médias alternatifs complotistes, depuis quelques jours, ce qu'on voit aussi, c'est une désinhibition par rapport à cette parole-là.
La fenêtre d'Overton, c'est l'idée, pour la résumer rapidement, que subitement on se permet de dire, de parler de choses dont on n'osait pas parler auparavant.
Exactement.
Et là, on a l'impression qu'on a le droit de le faire. Mais vous avez raison, on a l'impression que tous les ingrédients qui alimentent le complotisme sont décuplés autour de cette affaire. Enfin, disons-le, hein, juifs, pédophiles, élite mondiale.
Mais tout simplement, le sexe, l'argent, la politique. C'est-à-dire qu'on a là les ingrédients de tout bon thriller, d'une certaine manière, et là, c'est dans la vie réelle. Alors après, toute la difficulté du travail qui est le nôtre, du travail de journaliste, de commentateur, d'analyste, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie et de séparer ce qui relève de l'information et ce qui relève du fantasme, du délire, de la théorie du complot, et il y en a beaucoup.
Est-ce que, on va revenir sur le contenu de ce que l'on sait de ces dossiers Epstein, mais est-ce que c'est pas presque trop tard, Rudi Reichstadt, quand on y songe? Parce que désormais, au point où nous en sommes, peu importe que la mention des gens soit secondaire, qu'elle soit anecdotique, on a l'impression que le simple fait d'être dans ces fichiers, pour certains, permet de toute façon de construire un récit. Et peu importe sur quoi on le construit.
Oui, c'est pour ça qu'il faut faire œuvre de pédagogie, qu'il faut être scrupuleux, parce que avoir son nom, par exemple, dans l'une de ces 3 millions de pages de ce qui a été simplement publié, parce qu'il y a à peu près encore
la même chose
qui est derrière, ça peut vouloir dire simplement, par exemple, qu'on parle de vous. Ça peut être quelqu'un qui a parlé à quelqu'un qui est cité dans l'affaire Epstein, ça peut être quelqu'un qui a parlé à Epstein, et tout ça, jusqu'à maintenant, ça ne vaut pas complicité ou culpabilité, en rien. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un de proche, éventuellement a quelque chose à se reprocher, et à ce moment-là, il faut que la justice passe, il faut que les plaintes soient entendues, enregistrées, et que la justice passe.
Mais justement, si on plonge... Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait déjà ? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des noms, ça parle du réseau, effectivement, d'Epstein, de tous ces gens riches, plus ou moins influents, qui se cooptent entre eux, mais réellement, derrière le prince Andrew, dont on savait déjà qu'il était très très largement impliqué, derrière Clinton, dont on avait déjà lu le nom, derrière Bill Gates, dont on avait déjà lu le nom, est-ce que réellement, on apprend des choses dans ces 3 millions de pages qui ont été, qui ont été dévoilées ?
On apprend des choses qui relèvent pas forcément du pénal, d'ailleurs, qui relèvent...
Ni de la pédocriminalité.
De crédibilité, mais qui relève par exemple d'une moralité discutable, des échanges avec des échanges à caractère raciste, par exemple, avec des gens qui sont des conseillers de Nicolas Sarkozy, avec une princesse de Norvège qui pourrait devenir reine de Norvège et qui avait des liens très étroits avec Jeffrey Epstein, tout de même. Donc voilà, on apprend effectivement de vraies choses. Ce qu'on n'apprend pas et ce dont on n'a pas la confirmation, c'est d'un grand complot mondial pédosataniste. Voilà, ça, non. En revanche, il faut dire que, évidemment, les poursuites contre Jeffrey Epstein, elles sont éteintes avec sa mort, mais vous avez des gens qui continuent à penser qu'il est toujours vivant,
bien sûr.
Exemple. Et puis, il y a quand même eu une affaire qui a été jugée autour de l'affaire Jeffrey Epstein, c'est celle de sa principale complice, compagne, Ghislaine Maxwell, qui est en prison actuellement, qui purge 20 ans de prison, qui a été condamnée en 2022.
Alors, vous l'avez dit, il y a encore des gens qui pensent probablement que Epstein a été tué dans sa prison. Il y avait jusqu'à encore peu, c'est sur votre plume, sous votre plume que je l'ai lu, je crois 46% des Américains qui pensaient qu'il ne s'était pas suicidé. Est-ce que ces révélations-là et toute cette ampleur-là sont de nature à faire grimper ce chiffre et le faire grimper très très haut ? Plus il y a de gens importants, plus des gens avaient intérêt à le tuer. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de sortir ?
De toute façon, l'emballement médiatique autour de l'affaire joue pour le fantasme complotiste. Ce chiffre, il date des jours qui suivent la mort de Jeffrey Epstein, donc d'août 2019. Ce qu'on doit constater, c'est que l'autopsie, si vous voulez, médico-légale, a conclu à une mort, en tout cas à des traces, et une autopsie compatible avec le suicide, et qu'il n'y a pas d'affaire criminelle qui a été ouverte derrière, parce que tout simplement, il n'y a pas de preuve que des gens est venu l'assassiner dans sa cellule. Est-ce que ces preuves, un jour, surgiront ? Peut-être, je ne sais pas, mais est-ce qu'il est probable qu'il se soit suicidé ? Dire oui, c'est assez probable. Mais encore une fois, si on veut accuser qui que ce soit de l'avoir fait assassiner, encore faut-il apporter des éléments de preuve. Et ce qui est sûr, c'est que a priori, ils ne sont pas dans ces 3 millions de pages qui ont été publiées.
Il y a autre chose qui est très édifiant, Rudi Reichstadt, c'est que ces révélations arrivent au terme de ce qu'un journal a appelé la transparence à marche forcée, en fait. On a beaucoup reculé, on a beaucoup hésité, et puis finalement, on lâche tout. Et on lâche tout sans discernement, sans classement, sans mise en perspective. C'est le département de la justice qui fait ça, donc c'est l'État américain. Est-ce que c'est une stratégie et destinée à quoi ?
Alors attention, l'exécutif américain est obligé de publier ces documents parce qu'une loi est passée au Congrès il y a quelques semaines obligeant l'exécutif à publier l'intégralité du dossier. Alors, moyennant des caviardages pour protéger notamment les victimes. Ça a été fait dans une sorte de grand cafouillage d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une stratégie très sophistiquée dans la manière dont ces documents...
Y compris la stratégie de la noyade d'ailleurs.
...sont publiés, bien sûr.
Et de noyer Trump au milieu de tous ces gens-là.
Ou pas. Ou peut-être que c'est au contraire la marque d'un grand amateurisme. Encore une fois, c'est la patate chaude l'affaire Epstein, la patate chaude qui pourrait empoisonner la présidence de Trump, qui a commencé de le faire. Et quand on voit, depuis le début de la seconde administration de Trump, c'est-à-dire depuis le mois de janvier-février 2025, la manière dont ce dossier a été géré, avec Pam Bondi, la secrétaire d'État à la justice, qui d'abord explique qu'elle a sur son bureau la liste de clients d'Epstein et qui, quelques mois plus tard, est obligée de reconnaître sur la base d'un mémo du FBI et de ses propres services qu'en fait, non, il n'y a pas de liste de clients. Voilà, on parle de ce niveau d'amateurisme, de cafouillage.
C'est intéressant que vous employiez le mot « liste hein, » et que ce soit un mot qui est employé effectivement par l'entourage de Trump, dans la sphère complotisme, ce mot « liste » en fait fait partie aussi effectivement des presque des incontournables. C'est l'un des éléments forts de l'imaginaire complotiste. On a l'impression que ça y est, ils l'ont leur liste, en fait.
Si vous voulez, il y a une liste, par exemple, des gens qui ont été passagers de l'avion privé, du jet privé de Epstein, pour aller sur son île, sa fameuse île privée, etc. Évidemment, c'est une liste de passagers, ça ne vaut pas une liste de culpabilité. Mmh. Bon, il faut des investigations, bon. Mais, si vous voulez, il y a l'idée, depuis quelques années, que si vous retrouvez, si votre nom se trouve quelque part dans ces dossiers cités, eh bien, ça vaut suspicion. Et c'est là que c'est dangereux, parce qu'il y a plein de gens qui sont cités dans ces dossiers, et c'est normal, on parle des Clinton, mais aussi d'Emmanuel Macron, parce que simplement, Epstein parlait de Macron, il parlait de ce qui se passait dans l'actualité internationale, française, etc.
Et Cédric Villani, qui est au milieu, mais qui n'a strictement rien à voir avec rien,
qui a refusé de rencontrer Epstein, par exemple, qui a dit qu'il n'avait pas le temps, et puis Marine Le Pen y est aussi, parce qu'on parle d'elle, enfin voilà. Mais évidemment, ça ne vaut en rien complicité ou culpabilité.
L'argument des complotistes, c'est on nous dit rien, on nous cache tout. Donc voilà qu'on ne cache plus rien, et qu'effectivement on montre tout, mais au lieu d'apporter au final de la transparence et d'arriver au fait que c'est une preuve de transparence qu'on entend dans la complosphère, et on l'entend déjà sur les sites, etc., c'est regardez, l'état profond, on l'a, on le voit. Ce que nous dénoncions, c'est-à-dire ce petit monde de riches qui se coopte entre lui et qui prend des décisions contre nous, le petit peuple, regardez, nous l'avons. Comment on lutte contre ça ?
D'abord, là encore, une fois, en faisant la part des choses entre le fantasme et la réalité, ce qu'on voit, c'est effectivement un petit monde, une élite, la jet set, en gros, new-yorkaise, américaine. Bon, ce qu'on ne voit pas, c'est des gens qui prennent des décisions. Ça, non. Il n'y a pas de trace de ça. On voit des gens qui, en gros, sociabilisent, se voient, se rencontrent, se disent qu'ils vont se voir, etc. Parlent de l'actualité. Des gens puissants, des gens influents, indéniablement, qui ont des moyens, des mesquineries, des choses qui relèvent de la cooptation, etc., bien sûr. Mais ça, ce n'est pas tout à fait l'état profond tel que se l'imaginent les complotistes, qui nous parlent d'une sorte de hydre complètement tentaculaire et qui ferait la pluie et le beau temps et déciderait de nos dirigeants politiques, par exemple.
Les sites qui sont partis à 100 à l'heure profite aussi, et là aussi, comment on fait pour mettre le dentifrice dans le tube, Rudi Reichstadt, quand on voit ressortir, regardez les Pizza Gates, comme on disait, c'est-à-dire la traite des jeunes filles dans les arrière-cours de pizza.
Des enfants, même.
Des enfants dans les arrière-cours de pizza. On a vu repartir tout ça. Donc, est-ce qu'on a aussi le sentiment, quand on est à votre place, que tout ce qu'on a réussi à débunker ces derniers temps et dont on pense qu'il a été débunké est en train de remonter à la surface ?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un public, et il y aura toujours un public pour ces histoires-là, sensationnalistes, pour les paniques morales en tout genre, etc. Donc, il est important dans ces circonstances de garder la tête froide, de faire de l'information, de ne pas nourrir, si vous voulez, la machine à fantasmes et à délire complotiste, parce que ça peut avoir des conséquences. Hein, théorie du complot, c'est toujours l'accusation, la mise en accusation de gens qui parfois n'ont rien à se reprocher et sont de bonne foi. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais après, si vous voulez, il faut apprendre à vivre aussi avec la transparence. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on puisse voir directement les choses, se rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il y a, par exemple, dans ces documents. C'est important de le faire, parce que c'est très pédagogique d'aller voir ces documents, de voir de quoi on parle, à quel point c'est hétérogène, à quel point vous avez des mails, un tract, une revue de presse, un document qui est judiciaire, etc. Voilà, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça.
Comment vous les lisez, vous, justement, vous qui êtes là-dedans ? Il y a 3 millions de documents, donc comment on les lit pour arriver, justement, à sortir le bon grain de livret et comprendre tout ce qu'il y a dans cette masse-là?
Il faut y passer du temps. Il est certain que, de toute façon, la petite rédaction qui est la note ne peut pas tout traiter. En revanche, on fait des carottages, si vous voulez, par des sondages, par mots-clés. Voilà. On essaie de voir, on essaie de tirer le fil, de dire, okay, on parle d'un tel, est-ce qu'il est dans les dossiers ? Oui, sous quelle forme ? Voilà. Et en soi, c'est déjà un travail intéressant. Mais effectivement, la presse, depuis quelques jours, a fait, avec déontologie, en prenant les précautions d'usage, un travail intéressant d'information. Il y a des vraies choses qui sortent, et il y a sans doute encore des choses qui vont sortir, mais encore une fois, c'est pas nouveau. On est en 2026, la première affaire Wikileaks de mémoire, c'est 2010, peut-être même avant, d'ailleurs. Donc, il faut se dire que, de toute façon, tout est numérisé aujourd'hui, que les opérations de piratage numérique, ça existe, et que, potentiellement, le contenu de votre boîte email peut se retrouver demain dans l'espace public. Oui, si vous avez des choses à vous reprocher, que vous avez tué quelqu'un, peut-être que ça se verra et que vous serez attrapé par la justice, ce sera très bien. Et si ce n'est pas le cas, il faut que le reste du public public sache que voilà, il faut prendre des précautions.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on imagine d'un gars comme Jeffrey Epstein ? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a autant de documents, c'est que, sachant ses activités parallèles, si j'ose le dire comme ça, il avait besoin d'afficher un carnet d'adresses, voire de jouer au chantage avec certaines personnes, et c'est pour ça qu'il a tout gardé ? Ou est-ce que ce qu'on voit, c'est aussi des choses qu'il pensait ne pas avoir gardées, mais que l'on sait désormais déterrer ? Est-ce qu'on sait ça ?
Je ne peux pas répondre à cette question, moi j'en sais rien, peut-être. Les deux hypothèses sont valables, mais voilà, on peut spéculer, il y a peut-être des choses d'ailleurs qui ont été détruites, on n'en sait rien. Est-ce que l'exécutif cache des choses ? Je pense que ce serait compliqué. Si il avait, l'exécutif américain actuel, le pouvoir de le faire, il aurait sans doute retiré un certain nombre de choses qui sont, sinon compromettantes, du moins très embarrassantes pour Donald Trump lui-même. Donc voilà, on peut se dire aussi que la démocratie américaine, d'une certaine manière, elle fonctionne. D'une certaine manière, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, ils ont été rattrapés par la patrouille à la fin quand même.
Et Donald Trump qui désormais voudrait qu'on passe à autre chose, et ça nous dit peut-être aussi quelque chose quand on souhaite aller de l'avant. Rudi Reichstadt, je vous remercie beaucoup, directeur de Conspiracy Watch. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci.
Et la suite, dans le 18-20, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
Les clignotants au rouge, la guerre en Ukraine coûte de plus en plus cher à l'économie russe.
Et c'est juste après ça.
Kombucha on a rooftop, smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark-skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag levitating, doing meditation in me, girl, keto. Taking on all confrontation, fuck a limitation in me, girl, keto. Someone shit whack, I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard, and y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke, blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, little messiah, little miss hire them hoes, then fire them. I be in the bag levitating, doing meditation in me, girl, keto. Taking on all confrontation, fuck a limitation in me, girl. The pussy rap, I still be popping pussy to my sister, so I can't agree with that. These niggas misogynistic, I'll address it on the album. For now, let's sink into the fact that hate don't make you powerful. Y'all monitoring spirits, go monitor that checkbook. Fashion week was radical, diamonds what my neck took. Tried to turn the other cheek, but y'all just too damn extra. I had to take it to the stew and show these niggas pressure. Father forgive them, they gon' be hurt when I deliver. The album 6 months old and need a fucking babysitter. I did 8 years of failing, plus a lot of cold winners. Used to be a starving artist, now I want the whole dinner, bitch. I want my things. Nissan to a Bentley coupe. Fuck you mean. Got a cosign from K-Dot. She's baby king. God keep me from
girl, the girl, get up de Doshi dans la playlist d'Inter. Le monde à l'endroit, Louise Baudet.
You don't have the cards. The world has changed.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Louise, pourquoi l'économie russe souffre sans entamer la détermination de Vladimir Poutine ?
Oui, la guerre, quoi qu'il en coûte, le président russe est pourtant obligé d'en faire l'aveu. Et c'est la première fois depuis le début du conflit, son économie fléchit. 1% de croissance l'an dernier, 4 fois moins qu'en 2024. Hausse des prix, investissement en berne, crise bancaire larvée, la fameuse résilience russe est entamée. Les 4 dernières années, la guerre a pourtant été le meilleur meilleur carburant de l'économie. Les colossales dépenses de défense ont stimulé la croissance. C'est ainsi que Moscou a longtemps déjoué les pronostics d'effondrement économique. Mais la surchauffe de l'économie de guerre présente un gros inconvénient. Elle fait grimper l'inflation. Inflation qu'il a bien fallu contenir en augmentant les taux d'emprunt. Résultat, l'économie russe hors industrie de l'armement est à l'arrêt et la guerre plus du tout une bonne affaire.
Et pourtant, Vladimir Poutine ne dévie pas de sa ligne.
Oui, tant que les Ukrainiens ne cèdent pas, la guerre se poursuivra. Moscou a donné le ton ce matin à l'ouverture du nouveau round de négociations entre Russes, Ukrainiens et Américains à Abu Dhabi. Le profil du négociateur envoyé par le Kremlin est d'ailleurs sans ambiguïté. L'amiral Igor Kostyukov est un partisan de la ligne dure, à même de défendre les lignes rouges de Moscou. La première d'entre elles étant de récupérer toute la région frontalière du Donbass que l'armée russe n'occupe que partiellement. Et puis pas question de voir des troupes occidentales stationnées en Ukraine, garantie de sécurité pour Kiev après un hypothétique cessez-le-feu. Et pour que ce soit bien clair, Moscou joint le geste à la parole. Frappe massive et meurtrière sur l'Ukraine ces dernières heures. Une pluie de missiles et de drones sur les infrastructures énergétiques par moins 20 degrés en dépit de la pause promise à Donald Trump.
Donc Vladimir Poutine est toujours convaincu que le temps joue pour lui.
Oui, bientôt 4 ans de guerre, les morts par centaines de milliers, les populations qui s'épuisent et cette impression que rien ne peut ébranler la détermination du président russe. Pas même les sanctions occidentales qui vident pourtant les caisses de l'État. Les recettes pétrolières et gazières sont à leur plus bas niveau. Moscou est obligé de brader son pétrole et cherche par tous les moyens à récupérer de l'argent autrement. 2 points de TVA en plus en ce début d'année. Et dernière idée en date, la légalisation des casinos en ligne, interdit depuis 2 décennies en Russie pour un gain estimé de plus d'1 milliard d'euros par an.
Dans l'adversité, Louise, Vladimir Poutine compte ses amis.
Oui, coup de fil aujourd'hui en visioconférence au président chinois Xi Jinping. Échange opportunément diffusé pour vanter une coopération bilatérale qui sert la stabilité mondiale. La Chine est surtout un partenaire économique primordial pour la Russie. Son premier client pour ce qui est des hydrocarbures. Et la belle amitié déjà mise en scène à Pékin en septembre dernier va de nouveau se manifester. Vladimir Poutine étant invité à revenir en Chine dans les mois qui viennent. Alors combien de temps la Russie soutenue économiquement par son puissant allié peut-elle tenir? Quelle est la durée de vie de son quoi qu'il en coûte? Question clé, réponse incertaine.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain, le reportage. Un jour dans le monde, c'est un jour au Québec ce soir. Il fait moins 20, mais on va rester à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, devant la télé même et devant Heated Rivalry. Vous connaissez, visiblement pas moi. C'est une série, un raz-de-marée pop, dit-on. C'est une histoire qui mêle hockey sur glace et histoire d'amour entre deux hommes. Je vous la fais courte, l'un est américain, l'autre est russe. Officiellement, ils se détestent et ils s'affrontent sur la glace. En réalité, ils s'aiment d'une passion clandestine et torride. C'est romantique à en dégouliner, c'est très très chaud aussi, mais surtout, mais avant tout, c'est une révolution. La série a braqué les projecteurs sur un tabou persistant, l'homosexualité dans le sport professionnel le plus conservateur d'Amérique du Nord. La série débarque en France ce vendredi. Au Québec, engouement total, 1 mois après la fin de la première saison. Et le reste, c'est Nafia Libert qui raconte.
Boulevard Saint-Laurent à Montréal, moins 20 degrés, dimanche soir, personne dehors. Mais derrière la vitrine embuée de la librairie Joie de Livres, c'est bondé. Ici, on ne vient pas chercher le dernier Goncourt, on vient plutôt revoir un épisode de Heated Rivalry, la série sur deux stars de hockey, rivaux sur la glace, mais amants dans l'ombre. Dans la salle, tout le monde sirote un smoothie bleu électrique. Pour Marie et les autres habitués, c'est la référence de l'épisode de ce soir.
Cool. Au bleuet. Trop cool! Ah, wow, merci! C'est l'histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Donc, c'est un barista dans un café, mais l'autre, c'est un joueur de hockey, en fait. Puis, il va chercher des smoothies au bleuet, puis il demande un extra banane, genre un petit wink. Oui.
Ce clin d'œil coquin lance l'épisode. À l'écran, le barista prépare la boisson, l'ajout de la banane transforme la commande en invitation charnelle. C'est ça le phénomène Heated Rivalry, des détails qui deviennent des codes secrets. Soudain, la communauté de femmes, Simon, lui, a fait 3 heures de route en pleine tempête pour vivre cette connivence.
Je pense qu'on a toutes passé à travers la série durant le temps des fêtes, un peu chacun de notre côté, mais c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue ensemble. Je pense juste vivre en présentiel, quelque chose qui, à la base, ce vivant communauté en ligne.
Car c'est d'abord sur le web que la fièvre a pris, autour des romans. L'adaptation télé propulse ensuite la romance de niche vers un succès grand public que Carole Trottier, copropriétaire de la librairie, mesure à son inventaire.
Même aujourd'hui, on a reçu des centaines de livres et sont en rupture de stock encore. Heated Rivalry, c'est la meilleure adaptation d'une romance que j'ai jamais vue, qui reste vraiment fidèle au livre, au personnage, évidemment, au moment d'intimité physique aussi.
Les scènes érotiques sont explicites et assumées. La série filme ce que la réalité n'ose pas encore montrer. La Ligue nationale de hockey reste la seule grande ligue professionnelle masculine en Amérique du Nord où aucun joueur n'a fait son coming out. Pour l'ex-joueur Georges Larac, une fiction, aussi populaire soit-elle, ne suffira pas à renverser des décennies de culture de silence.
Cette série-là, ça change absolument rien dans le monde du hockey. J'ai joué avec des joueurs qui sont homosexuels puis qui n'étaient pas confortables de faire un coming out. Parce que c'est vrai que la première personne qui va le faire, il va devenir le porte-étendard. Puis ça, c'est un énorme poids sur ses épaules.
À la librairie Joie de Livre, l'épisode se termine sous les applaudissements. Et Thomas, un jeune fan de hockey qui est gay, raconte comment sa série fétiche s'est quand même invitée jusque dans le temple du hockey montréalais, le Centre Bell.
Oui, jeudi dernier, j'étais au Centre Bell. Et puis, justement, la musique de Heated Rivalry jouait. Donc, c'est 22 000 personnes qui chantaient, dansaient sur la musique de Heated Rivalry. J'aurais été surpris si on m'avait dit ça il y a quelques semaines.
Comme il l'aurait été de voir des maillots inspirés de la série mis en vente lors d'un match ou d'entendre Gary Bettman, le commissaire de la Ligue, avouer avoir regardé la série d'une traite et la qualifier de merveilleuse histoire. Une rangée en arrière, Hugo pointe une certaine ironie.
C'est sûr que c'est un peu agaçant là, de voir qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont même interdit aux joueurs de porter des chandails LGBTQ. Et là, ils en tirent profit parce que la série rayonne à l'étranger. Mais je pense qu'il faut aussi le voir d'un côté positif, de se dire que ça va obliger la Ligue à se positionner réellement. On va leur demander davantage de comptes.
Le premier impact de la série n'est peut-être pas dans les vestiaires, mais dans les gradins. Heated Rivalry a déjà élargi le public du hockey en attirant des femmes, des personnes queer et des amateurs de romance qui ne se reconnaissaient pas dans l'imaginaire traditionnel de ce sport.
Nafia Libère pour le reportage depuis Montréal. Merci beaucoup. La série est diffusée chez nous sur HBO Max à partir de vendredi. La suite, ce soir, c'est pas sous la glace, mais sous les radars avec vous, Guillaume Audin.
Sous les radars en Chine, où Harry Potter et ses copains squattent le Zodiac à quelques jours du Nouvel An.
Et comme chaque mercredi, Ilana Moriusev, vous lisez au fil de l'actualité.
Oui, comment dire je t'aime en coréen ?
Ah bah écoutez, on a déjà hâte tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini. Il reste un peu dans la région puisque nous sommes dans la région la plus au nord de Québec, le Nunavik, avec Elisa Pie, très dévouée à la cause autochtone. Elle reprend Heart of Glass, vous allez voir, de Blondie, c'est très étonnant.
Ingi kawa unna sunu. Elise Appy et sa reprise de Blondie. Sous les radars se cache l'actualité internationale et Guillaume Audin. Un morceau d'histoire d'abord, 1991, Guillaume, l'Union soviétique de Gorbatchev et les États-Unis de George Bush, père, signent le traité START One de réduction des armes nucléaires.
Et 35 ans plus tard, plus rien désormais n'empêche Washington et Moscou de déployer autant de têtes nucléaires que souhaité. Chacun de ces deux pays en possède environ 1700 de bombes atomiques prêtes à l'emploi, si je puis dire, le reste est au parking. Mais inutile de vous faire un dessin, il y a là en permanence de quoi foudroyer l'humanité, une, deux, quinze, mille fois s'il le faut, alors qu'en plus, demain, jeudi, le dernier traité, encore en vigueur, arrive à expiration. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, tant l'époque que nous traversons est pétrie de guerre et d'incertitudes. L'enterrement du New Start, le dernier de ces traités, signé en 2010 par Obama et Medvedev, va immanquablement relancer la course aux armements. Trump et Poutine sont dans les starting blocks. La Chine s'est lancée à son tour dans cette course à la puissance. À l'heure des prédateurs, il y a un chemin étroit, sans doute, mais un chemin tout de même qui mène à l'apocalypse.
A Victorian far-right extremist has been sentenced to 1 month in jail for performing.
Et autrement dit, nous sommes en Australie. Un néo-nazi entre dans l'histoire judiciaire de son pays.
Il s'appelle Jacob Hersent. Il a 26 ans. Il porte beau, sourire narquois, dans son costume bleu anthracite sur chemise blanche. Costume qu'il a troqué pour la tunique du prisonnier. Ce jeune suprémaciste est le premier Australien de l'histoire à finir derrière les barreaux pour un salut nazi qu'il aura le temps et le temps et le temps de ruminer pendant tout un mois. Un geste commis à dessein devant un tribunal en 2023. Il venait d'être condamné une première fois, mais avait fait appel. Dehors, devant les caméras, il avait tendu son bras, accompagné d'un Heil Hitler des familles, au mépris absolu de la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés par le Troisième Reich. Ça n'est pas sérieux, a tenté d'argumenter son avocat. Ce salut nazi ne mérite pas la prison. Il ne l'avait pas fait devant une synagogue. Eh bien si, c'est sérieux, on a décidé la justice australienne. Vous savez quoi ? C'est bien ainsi.
Bah, l'argument est très spécieux. Pardon, c'est de ma faute.
Non, Malfoy. Draco Malfoy.
Allez, Harry Potter et son grand rival Malfoy, Malfoy, qui s'invite, mesdames, messieurs, dans le zodiaque chinois.
Malfoy, Fabienne, vous le prononcez presque parfaitement, vous prendrez les yeux fermés pour une chinoise. Vous savez comment on dit et traduit Malfoy en mandarin ?
Ben non, bien sûr.
Ma et Alfou, qui ressemble lorsqu'on l'écrit à deux caractères typiques, Ma, le cheval, et Fou, la bonne fortune. Malfoy, c'est Harry Potter, et c'est méchant dans Harry Potter, ça rime avec Bad Boy. Eh bien, ce petit blond et sa cape noire, ce vilain garnement est devenu un héros dans toute la Chine. Il suffit pour s'en convaincre de faire un tour sur les réseaux sociaux. Là-bas, le hashtag Malfoy est une tendance viralissime. Pourquoi ? Je n'ai presque pas besoin de vous l'expliquer. Le 17 février prochain, on célèbre l'année du cheval dans le zodiaque chinois. Si vous êtes né en 1954... 1966, 1978, 1990, 2002,
ouais,
soyons fous, 2014.
Oui, aussi.
Eh bien, vous n'êtes qu'indépendance, mouvement, courage, endurance, en clair, vous êtes parfaite. Perso, je suis dragon, autorité naturelle, destin hors norme, puissance créatrice. N'en jetez plus. Xinyan Kuaile, je vous souhaite une bonne année en chinois.
Voilà, ouvrez très grand les portes pour que Guillaume Audin et son melon puissent passer tous les deux. Merci, Guillaume. Allez, à demain.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le mercredi, la Namour Youssef lié et relié au fil de l'actualité. Ilana, il y a tout juste une semaine, c'était mercredi dernier, l'ex-première dame de Corée, qui s'appelle Kim Keon-hee, a été condamnée à 20 mois de prison ferme. Elle a fait appel pour corruption. La justice lui reproche d'avoir accepté un collier, un sac Chanel de la secte Moon, en contrepartie bien sûr de son influence. Une première dame à la personnalité affirmée, ce qui est assez contraire aux usages coréens.
Oui, je ne reviens pas sur la totalité des épisodes précédents, ce serait fastidieux, mais sachez que le mari de Kim Keon-hee, le président déchu, Yoon Suk-yeol, c'est la dernière fois, encourt la peine de mort pour avoir notamment décrété la loi martiale fin 2024 et fomenté une insurrection. Et bien sûr, son épouse aussi fait l'objet de plusieurs enquêtes. Alors ici, on entend un reportage de la chaîne de télévision coréenne NKS. La journaliste explique que l'ancienne première dame a reconnu devant le tribunal avoir reçu des cadeaux qu'elle n'aurait pas dû accepter. Le New York Times a consacré à Kim Keon-hee et un portrait très intéressant. Plus jeune que son mari de 12 ans, elle se présentait volontiers comme celle qui porte la culotte dans le couple. Elle faisait la pluie et le beau temps au gouvernement, mais apparemment, elle n'est pour rien dans cette affaire d'insurrection. Le soir où son mari a décrété la loi martiale, elle avait rendez-vous dans un cabinet de chirurgie esthétique. Car Kim Keon-hee est une très jolie femme, attentive à son apparence. Elle aime les bijoux, les sacs, les beaux vêtements. Mais elle n'est pas qu'une femme frivole. Elle adore les chiens et c'est grâce à elle, nous dit le New York Times, qu'il est désormais interdit de consommer de la viande de chien en Corée du Sud.
Bon alors, Ilana, où est-ce que vous voulez nous emmener avec cette histoire de première dame coréenne déchue?
Eh bien voilà, ce portrait m'a suffisamment intriguée pour que j'aille fouiller du côté de la littérature coréenne. Je cherchais quelque chose qui soit en rapport avec le couple, les femmes en Corée. Et j'ai trouvé un génial recueil de 5 nouvelles qui s'appelle « Les boîtes de ma femme », d'où il ressort qu'en Corée, et peut-être ailleurs aussi, l'enfer, c'est le couple. Hommes et femmes sont complètement écrasés par la pression sociale, comme l'explique l'éditrice des boîtes de ma femme, Laure Leroy.
Il y a quand même quelque chose qui m'a, moi, frappé dans les séries coréennes, c'est qu'on y trouve souvent ce personnage de femme d'affaires, forte, puissante, éventuellement corrompue, et qui fait souvent preuve d'une certaine brutalité dans son maniement des affaires. Moi, j'étais toujours frappée par ces personnages-là dans les séries, parce que justement, dans la littérature, on ne les retrouve pas beaucoup. En général, en effet, on voit ces couples coréens. Alors, le fonctionnement type, c'est la femme qui quitte son travail du jour où elle se marie et un mari qui rentre à moitié sous tous les soirs et va boire des coups avec son patron, ses collègues, ses relations d'affaires. On dirait que ça fait partie de leur temps de travail, en tout cas c'est considéré comme tel.
Alors dans Les boîtes de ma femme, on voit très bien ce mécanisme à l'œuvre. Dans la première nouvelle, un homme découvre les souvenirs que sa femme conservait dans des boîtes et il se rend compte qu'il ne savait presque rien d'elle. Dans une autre nouvelle, une jeune femme émancipée rentre chez elle un soir après une rupture amoureuse. Le matin, elle va trouver sa mère dans la cuisine et elle lui dit « Maman, organise-moi un mariage arrangé, comme si toute tentative d'émancipation était vouée à l'échec. » Dans une troisième nouvelle, le mari s'aperçoit avec stupeur que sa femme tient un journal intime. C'est d'ailleurs assez ambigu car elle le laisse traîner ce journal, comme si elle souhaitait qu'il le lise, comme si c'était la seule façon pour elle de lui dire sa détresse.
Ce matin, en partant à son travail, mon mari m'a dit « Je me sens très fatiguée aujourd'hui, ce soir je rentre tôt ». J'ai donc préparé de nombreux plats qu'il aime bien, afin qu'à son retour, il soit heureux de se retrouver chez lui. J'ai commencé à 5h pour finir à 9h. Mon fils, Min-young, était intenable, et son frère, Min-hoo, n'arrêtait pas de faire des bêtises. Tous deux se sont chamaillés. Quand j'ai voulu les coucher, Min-young s'est mis à pleurer. Je l'ai pris avec moi. Pendant que je découpais les légumes, le gosse n'a pas cessé de vouloir mettre ses doigts sur la planche. Je l'ai repoussé assez loin, mais chaque fois, il revenait à quatre pattes jusqu'au moment où il s'est pris une chaise sur la tête. Il a pleuré longtemps. Quand je suis revenue à la cuisine pour tremper les beignets de gambas dans l'huile bouillante, c'est Min-hoo, cette fois, qui m'a appelé pour que je le mette sur le pot. Au moment où j'ai voulu retirer la poêle du feu, j'avais les mains mouillées et des gouttes d'eau sont tombées dans l'huile qui s'est mise soudain à gicler. Je me suis évidemment brûlée. Alors que j'étais à m'enduire la peau de vaseline, Min-young, cette fois, s'est renversé un sac de farine sur la tête. Le téléphone a sonné. C'était mon mari qui m'annonçait son retard. La communication a brusquement été coupée. Longtemps encore, j'ai tenu le combiné entre les mains. Finalement, qu'avais-je fait pendant des heures ?
Merci beaucoup à Alix Barrois pour la lecture. Ce sont des portraits qui sont quand même assez désespérants, Ilana.
Mais oui, on lit et on rit nerveusement parce que l'autrice fait preuve, l'air de rien, d'un humour assez caustique. Hommes et femmes sont malheureux. Hommes et femmes sont écrasés par les rôles que leur assigne une société très conservatrice. Entre eux, c'est le règne de l'incommunicabilité absolue. Et si l'on en croit le sort réservé à l'ex-première dame, il est très difficile, voire impossible, de sortir des schémas établis.
Les boîtes de ma femme de Eun et Kyun qui est publiée aux éditions Zulma. Merci beaucoup Ilana Mor-Youssef, à la semaine prochaine. Le 18-20 la suite, c'est le journal de 19h avec Christelle Rebière. Le téléphone sonne très vite, Philippe Lefébure. Aujourd'hui, bonsoir. Avec avec Heidi Sévestre et Mathieu Tordeur. Bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Heidi Sévestre et Mathieu Tordeur, donc, qui rentrent de leurs 4000 km dans l'Antarctique.
Une expédition est scientifique, une expérience humaine. Hervé, qu'est-ce qu'ils emportent comme matériel, au pied, comme vêtements? Karine, est-ce qu'ils ont trouvé de l'espoir concernant le réchauffement climatique?
01 45 24 7000, allez, on est ravis et on vous attend avec impatience. Il est 19h sur France Inter.